Alors aujourd'hui, ce matin, il y a un chiffre qui est important, qui est hyper important. C'est le chiffre 5. Je suis pas un monstre fan de numérologie, mais là ce matin, on en parle parce qu'on vient de battre 5 records consécutifs, 5 jours de suite. Le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, tout est au plus haut. Et pourtant, au milieu de cette fiesta sans fin où le champagne coule à flot, il y a un autre chiffre qu'on entend crier au fond de la vallée, c'est le chiffre 145. Oui, parce que pendant ces 5 jours de record, la majorité des titres ont baissé, pas une fois, 5 fois de suite, là encore, des records à la hausse avec 55 à 60% des valeurs du S&P 500 qui sont dans le rouge tous les jours. Ça ne s'est jamais produit en 145 ans d'histoire boursière américaine. Tout simplement, jamais. On est littéralement dans un territoire où l'histoire financière ne sait même plus quoi dire parce qu'il n'y a pas de précédent, pas de moyen de comparer. Du coup, moi non plus, je ne sais plus quoi dire. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je m'appelle Thomas Bayet, je commente les marchés depuis plus de 30 ans. J'ai survécu à 1987, à la bulle Internet, à Lehman Brothers, au Covid. Et maintenant, j'essaye de survivre à 2026. Et aujourd'hui, on est le 3 juin 2026. Aujourd'hui, on va parler d'un marché qui bat des records sur des bases qui n'ont aucun précédent historique, d'un indice des semi-conducteurs qui approche les 100% de hausse en 2 mois, d'un détroit qui est toujours fermé, d'un deuxième détroit qu'on pourrait fermer éventuellement peut-être aussi, et d'un accord qui n'arrive toujours pas malgré les gesticulations de Trump, mais aussi du prix du riz en Thaïlande qui vient de prendre 20% en un seul mois pendant que les ricains croulent sur leurs dettes en plastique. Allez, c'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va déjà reprendre depuis le début. Donc le S&P 500 est à 7610, le Dow Jones est à 51308, le Nasdaq Composite est à 27094, 5 records historiques en 5 séances, le genre de choses qui se produit en général dans des périodes de croissance extraordinaire, d'euphorie généralisée et de conditions économiques parfaites. Sauf que pendant ces 5 jours-là, entre 55 et 60% des valeurs qui composent ces mêmes indices ont donc terminé dans le rouge. Tous les jours. Alors, on va essayer de reformuler ça clairement parce que c'est important. L'indice monte, la majorité des actions qui composent cet indice baissent en même temps. Donc, tous les jours depuis une semaine, c'est mathématiquement possible, bien sûr, mais statistiquement, c'est un événement qui ne s'était jamais produit depuis que les États-Unis tiennent des données boursières à peu près sérieuses. On a traversé la Grande Dépression, 2 guerres mondiales, des dizaines de crises, et ce scénario-là, on ne l'avait jamais vu. Alors, comment c'est possible? La réponse, elle tient en 2 mots. La tech pèse tout simplement 40% du S&P 500 aujourd'hui. 40%. Les 10 premières capitalisations, Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, etc., etc., tirent l'indice vers le haut pendant que les 490 autres regardent passer le train depuis le quai. Sur les 5 dernières séances, 2 secteurs seulement ont terminé en positif. Il faut quand même le savoir parce qu'on parle de beaucoup de records, mais ça, c'est un fait. La tech est à plus 5,9% et l'énergie à plus 0,3%. L'immobilier, les utilities, les télécoms, tous à moins 3% ou pire. Et le VIX est à 15,70. Le niveau de quelqu'un qui dort plutôt bien la nuit et de quelqu'un qui n'a pas du tout envie de protéger son portefeuille. Comme si personne n'avait remarqué qu'on est en train de construire un château sur des sables mouvants. Certains experts disent que cette tendance pourrait bien s'inverser et certains même disent « ce mois ». Alors, je ne sais pas quel culte ils pratiquent pour avoir des arguments là-dessus, mais enfin bon, ça pourrait se produire ce mois. Et quand ça arrivera, on pourrait même avoir la situation inverse. Des indices qui vont baisser avec une majorité de titres qui seront en hausse. Le marché est tellement tordu qu'il pourrait bien devenir paradoxal dans les deux sens. Et puis alors, si vous pensez que ce truc, c'est le plus bizarre de la journée, attendez la suite. Hier, il y a eu Marvel Technologies. Vous connaissez? Alors, rien à voir avec Iron Man, Captain America ou Hulk, mais hier, franchement, ils ont été beaucoup plus efficaces que toute l'équipe des Avengers réunie ensemble. Marvel a terminé en hausse de 32,5% en une seule séance. Pas parce qu'ils ont annoncé un nouveau produit révolutionnaire, pas parce qu'ils ont battu les estimations de 200%. Non, il y a tout simplement un monsieur qui porte une veste en cuir en général et qui dirige la plus grosse boîte du monde en ce moment, qui a déclaré que Marvel était un maillon indispensable de la chaîne de l'IA et qu'il pourrait bien valoir 1 000 milliards un jour. Donc, pour bien comprendre les choses, hier matin, Marvel valait 250 milliards. Donc, le marché, il a fait le calcul assez facilement. De 250 à 1000, c'est x4. Tout le monde s'est rué dessus, plus 32,5% dans la journée et plus 315% depuis le mois de février. Et là, vous allez me dire, mais alors, est-ce que c'est cher? Ben, Marvel se négocie à 120 fois les bénéfices estimés pour 2027 et 17 fois le chiffre d'affaires. Donc oui, dans un univers normal, dans un autre univers, on appellerait ça cher. Sauf que dans notre univers actuel, c'est presque un titre de value, parce qu'à côté, vous avez des boîtes comme Arm Holding qui se balade tranquillement à 340 fois les bénéfices, 340 fois, et Arm a pris 270% depuis le 1er janvier. Alors oui, à côté de Arm, Marvel est presque raisonnable, presque pas cher. Et attention, parce que je vois venir les commentaires. Oui, on est en 99, c'est le retour de la bulle Internet. Non, 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 on n'est pas en 1999. En 1999, les boîtes n'avaient pas de revenus, ils gagnaient pas d'argent. Là, Marvel, Arm, Nvidia, eux, ils ont des vrais revenus, des vraies marges, des vrais clients, une vraie croissance. Par contre, le problème qu'on a, il faut le reconnaître, c'est que ces valorisations ont déjà intégré 10 à 15 ans de croissance quasi parfaite. À la moindre déception dans 2 ans, la moindre guidance qui ne battra pas le consensus de plus de 15%, eh ben, on redécouvrira ce que pourrait dire le mot correction. Bien qu'on sache plus à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est pour plus tard. Bien sûr, beaucoup plus tard, peut-être. Pour l'instant, si vous osez dire ça dans une soirée, si vous osez dire qu'il faut se méfier parce qu'on est trop cher et que le cousin de votre oncle est bearish, ben, il y a bien des chances qu'on vous foute dehors de la soirée. On va parler paradoxe maintenant, parce qu'il y en a plusieurs. Pendant que Marvel explose de 32%, voilà ce qui se passe à côté sur les grands noms. Nvidia a perdu 0,69%, Alphabet reculait de 3,86%, Microsoft de 4,17%. Les champions absolus de l'IA ont reculé pendant que des boîtes de semi-conducteurs s'envolaient, et on est quand même au plus haut de tous les temps. En Europe, STM Micro a pris 15%, Infineon 10%, ASML 5%, et tous sont au plus haut historique. Alphabet a baissé parce qu'ils ont annoncé une augmentation de capital de 80 milliards pour pouvoir financer leurs dépenses en IA. Microsoft baissait parce qu'elle a présenté ses propres modèles pour s'affranchir du groupe OpenAI. On est donc dans une économie de l'IA qui mange ses propres enfants et qui fertilise ses propres sous-traitants. L'IA punit les géants de l'IA au bénéfice des fournisseurs de l'IA parce que c'est eux qui vont récupérer le pognon. Je sais pas, mais je pense que Darwin aurait adoré cette période. Côté obligataire, le 10 ans américain est à 4,45, le 30 ans est à 4,96, ça va un petit peu mieux, ça se normalise en douceur, on va dire, et le marché obligataire a l'air de trouver ça plutôt pas mal, peut-être un peu trop bien. Parce que pendant ce temps-là, les JOLTS ont été publiés hier soir, les offres d'emploi affichent 7,6 millions en avril contre 6,9 en mars, une hausse de presque 10% sur un mois, donc le marché du travail est loin de se refroidir si on se base là-dessus. L'ISM manufacturier était à 54, le plus haut depuis 2022, le pétrole à 96$ et l'inflation en zone euro est à 3,2% en mai, 3,8% aux States. Ce cocktail-là, économie solide, emploi qui repart, pétrole élevé, inflation qui redescend pas, voire qui monte, ben c'est pas exactement ce dont les banques centrales ont besoin pour pouvoir baisser les taux. Mais ça a l'air d'inquiéter personne. Comme si l'IA avait le pouvoir de régler même les pires scénarios macroéconomiques. Ce matin, le Nikkei est en hausse. C'est logique, hein, c'est l'effet papillon revisité par Jensen Huang. Sauf que là, c'est plus un papillon, c'est un Boeing 747. Pendant que les actions japonaises font la fête, les obligations, elles commencent à regarder leurs pieds avec un air un tout petit peu préoccupé. Les rendements montent sur toute la courbe, le 10 ans est à 2,585, le 5 ans à 1,885, le 2 ans à 1,40. Pas une panique, pas une capitulation, juste une lente prise de conscience collective que la Banque du Japon va probablement remonter ses taux. Encore, parce que l'inflation ne redescend pas vraiment et que le choc pétrolier iranien n'est pas franchement en train d'arranger les choses. Petit point de détail à ce propos, justement, ce matin, les chiffres du CPI au Japon sont sortis, ils sont en train de rebaisser. Mais attention, ils rebaissent parce qu'aujourd'hui, s'ils arrivent à faire baisser l'inflation, c'est parce que le gouvernement injecte du pognon pour faire baisser les prix de l'essence. Donc c'est fake. Fake news, comme dirait Donald Trump. Et puis Kazuo Ueda va parler ce matin, le patron de la BOJ, et la ministre des Finances a déclaré qu'elle était largement en phase avec lui, ce qui traduit et du japonais diplomatique signifie probablement qu'ils se sont mis d'accord pour ne rien dire de trop précis. Spéciale dédicace à l'art de communication des banques centrales. En attendant, le taux japonais à 40 ans est à 3,755. Le Japon, le pays qui a vécu avec des taux à zéro pendant 30 ans, le pays qui a inventé la politique monétaire ultra accommodante comme d'autres inventent des religions, est en train de redécouvrir ce qu'est une courbe des taux normale. C'est presque touchant à regarder. mais ça fait un peu peur quand même. Du côté de l'Iran et de l'accord Trump, rien de neuf, tout le monde continue de se tirer dessus au mépris le plus total du cessez-le-feu du mois d'avril. Le Brent est à 96$, le WTI à 93,76$. Trump a déclaré que les négociations se poursuivaient sans interruption. Il a aussi déclaré que les informations sur une rupture des pourparlers dont on a parlé hier, c'était une fake news, comme c'est surprenant. L'agence iranienne Tasnim, elle dit que Téhéran réfléchit maintenant sérieusement à bloquer aussi le détroit de Bab el-Mandab, l'autre grand goulot d'écran d'étranglement mondial, celui qui donne accès à la mer Rouge et au canal de Suez. Donc si les Iraniens exécutent cette menace, vous prenez le pétrole, vous prenez le gaz, vous prenez une bonne partie du commerce mondial et vous fermez les robinets en même temps. Dans un contexte où les stocks mondiaux sont déjà à des niveaux bas inédits selon Exxon et où la demande estivale n'a même pas encore commencé, c'est peut-être pas forcément la meilleure nouvelle de l'année, même si c'est l'année de l'IA où tout le monde se fout de ce genre de considérations en général. Le marché le sait, tout le monde le sait et tout le monde fait semblant de ne pas le savoir parce que le deal va arriver, il arrive bientôt. Depuis 95 jours. Et puis alors, permettez-moi de vous sortir du Nasdaq 2 minutes pour faire un rapide tour du monde réel, parce que pendant que Jensen Huang devient conseiller financier et que les records s'accumulent, voici quand même ce qui se passe ailleurs. On a appris ces dernières 24 heures que le riz en Thaïlande a pris 20% en mai. Sur un mois, 20% de hausse. C'est le plus gros mouvement mensuel depuis qu'on collecte ces données, donc depuis 2008, plus 26% depuis le mois d'avril à $480 la tonne. Pendant que les engrais, au même moment, les engrais azotés s'envolent de 50% en Asie du Sud-Est. Parce que tout simplement, la guerre en Iran a décidé que nourrir 4 milliards de personnes, c'était un détail logistique secondaire. Et pendant ce temps-là, l'Américain moyen, celui qui regarde le Nasdaq battre des records depuis son canapé avec ses Nvidia en portefeuille, porte aujourd'hui 1250 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit. Plus 360 milliards depuis 2020. Et 21% des porteurs de cartes avec plus de $10,000 de dette personnelle. Le détail savoureux mieux de tout ça, eh ben c'est les ménages les plus aisés qui s'endettent le plus vite. Donc pour résumer la situation mondiale en une phrase, la nourriture devient inabordable, les gens s'endettent pour compenser, les engrais coûtent une fortune à cause d'une guerre que personne ne résout, et quelque part, aux États-Unis, un analyste de Goldman Sachs vient de relever son objectif sur le Kospi de 35% après 100% de hausse. Tout va bien. Jacques Chirac disait qu'il faut manger des pommes, je dirais plutôt manger du riz, pendant qu'on peut encore le faire. Je vais être honnête avec vous ce matin, je commence à ressentir une légère fatigue éditoriale, pas parce que le marché monte, hein, les marchés haussiers j'ai connu, et ça reste plutôt agréable à commenter, mais la fatigue vient quand même de la répétition mécanique du narratif. Record, IA, Jensen Huang dit quelque chose, record, Iran, Trump tweet, record, Fox, Marvel, record. C'est comme si on regardait le même épisode d'une série Netflix chaque matin avec juste les noms des entreprises qui sont modifiées. Et pendant ce temps-là, le VIX est à 15,70, l'un des plus bas de la décennie, alors que le monde géopolitique ressemble plus à un jeu de Jenga qu'autre chose. Demain, on aura les chiffres ADP sur l'emploi privé, vendredi les NFP, et vu les JOLTS d'hier, attendez-vous à des surprises à la hausse plus tôt. Et pendant ce temps-là, le détroit d'Hormuz reste fermé, le riz continue de monter et Marvel vaut peut-être 1000 milliards un jour. Peut-être, ou peut-être pas. Merci d'avoir été avec moi ce matin, même si le marché donne l'impression de tourner en boucle. On reste motivé, on s'abonne, on partage, on like et on commente. Et puis surtout, on se revoit demain pour voir la nouvelle recommandation d'investissement de Jensen Huang. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.